jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la vie du bon côté avec cette question cet après-midi. Comment notre histoire de vie influence-t-elle notre vie professionnelle? Vous l'entendrez jusqu'à 14h30, notre invité, votre invité va vous dire que nous avons vécu dans notre enfance, dans nos relations, des opportunités et des épreuves de vie qui impactent considérablement nos choix, notre investissement et notre parcours professionnel. Alors pour certains, tout ça se transforme en frein, parfois en croyances négatives à la source d'auto-sabotage. Pour d'autres, ce sera comme des ressources force et du booster. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà remarqué les liens entre votre histoire de vie et votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui, selon vous, vous a influencé? Dans quel sens? Vos témoignages sont évidemment les bienvenus en ce début d'après-midi. 070 23 33 23 pour intervenir par téléphone, pour nous écrire le SMS au 30 63 50 centimes ou la page Facebook de la vie du bon côté. Et vous allez voir avec notre invité cet après-midi encore, on prend la vie du bon côté.
La vie du bon côté.
Bonjour Marie-Pierre Prodhomme.
Bonjour Thomas.
Soyez la bienvenue dans Merci. La vie du bon côté. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes une régulière de l'émission. Alors donc, notre vie personnelle influencerait notre vie professionnelle, Marie-Pierre, c'est bien ça?
Ah, moi je trouve, en tout cas j'ai beaucoup observé ça, d'abord pour moi-même.
Ouais.
Et puis pour les personnes que j'accompagne en coaching de vie et en coaching professionnel, que ce soit pour une idée, pour une démarche de mal-être au travail ou de réorientation professionnel ou de questionnement sur le sens du travail, où on voit directement dans l'histoire de la personne, dans son histoire d'enfance, bien souvent, certaines choses se sont passées qui ont eu un impact plus que direct sur son choix d'études ou sur son non-choix d'études, sur son métier plus tard.
C'est le cas pour tout le monde finalement, non ?
Je pense que
le personnel influence comme ça le professionnel.
Le personnel nous construit et nous fait poser, entre guillemets, gros guillemets, des choix, hein,
ouais.
Pour autant que ce soit vraiment des choix et pas des...
Mais est-ce qu'on se rend compte que ce sont des choix parce que des fois, l'histoire personnelle peut teinter la vie professionnelle sans qu'on s'en rende compte, finalement?
Oui, ça peut très bien nous influencer sans qu'on s'en rende compte et ça peut très bien nous influencer alors qu'on s'en rend vraiment compte puisqu'on peut vraiment se mettre en chemin vers une mission parce que quelque chose a manqué dans notre enfance, et là c'est un choix qui est consciemment posé. Par contre, tout ce qui est auto-sabotage, là généralement il y a plus de facteurs inconscients et la personne ne se rend pas compte la raison pour laquelle elle sabote sa carrière ou elle ne se met pas à la place qui lui convient.
Alors c'est vrai que les effets sont différents selon les parcours, selon les personnalités. Je le disais, pour certains c'est boostant et pour d'autres c'est plus handicapant.
Voilà, c'est la question de la résilience. Je vis quelque chose dans ma famille d'origine qui me met à l'épreuve. Est-ce que je vais avoir une attitude de repli et quelque part de victimisation ou est-ce que je vais utiliser ça pour rebondir?
Alors on le disait un petit peu, on va aussi cet après-midi évidemment échanger autour des relations au travail. Elles sont souvent en lien avec celles que nous avions ou que nous avons encore avec nos parents, c'est bien ça?
Oui, très très fréquemment, c'est ce qu'on retrouve entre autres dans ce qu'on appelle les matières de harcèlement. Je ne suis pas très fan du terme parce que ça parle plutôt dans l'idée de harcèlement de quelqu'un qui est persécuteur, quelqu'un qui attaque et d'une autre personne qui est victime, mais pour moi, sans nier la souffrance qu'il y a derrière ce type de relation, pour moi, il y a juste une relation où deux personnes sont en souffrance et on va parler de jeu dans le sens interaction relationnelle, donc c'est quelque chose qui est nourri de part et d'autre. Et donc, dans ce type de relation où il y a de la souffrance, que retrouve-t-on? Souvent, on retrouve des schémas très similaires à ce qui s'est joué dans l'enfance, à des postures similaires ou des postures qui sont tout à fait opposées.
C'est vrai que cette posture que l'on a pu avoir dans la famille, on la retrouve dans le boulot. Ça conditionne la posture, ça conditionne la place et le pouvoir que l'on a et que l'on donne aux autres.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y aura toutes sortes de réactions où une personne qui aura vécu dans une posture de victime dans l'enfance, ben un enfant, voilà, on fait avec la famille qu'on a. Néanmoins, il y a quand même certaines variations dans la posture que l'enfant peut prendre. Et à la suite de ça, mais dans son milieu professionnel, soit il va adopter exactement la même posture parce que c'est ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable, mais il connaît.
Ça le rassure. Ouais.
Voilà, ça rassure. Ou alors, ça va être une posture qui est complètement en opposition et qui va vraiment être à l'extrême et qui, de toute façon, est déséquilibrée.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Comment notre histoire de vie influence-t-elle notre vie professionnelle ? On en parle cet après-midi avec Marie-Pierre Preud'homme, qui est coach professionnel. On va commencer par parler, si vous le voulez bien, des raisons qui influencent nos choix d'études et de métiers. Et il y a tout d'abord le contexte économique et socio-démographique, Marie-Pierre.
Si on voit au niveau des disponibilités d'offres d'emploi, par exemple, ou d'opportunités, ce qui se passe dans un pays va être tout à fait déterminant dans le choix qui va pouvoir être posé. Et encore une fois, ce qu'on vit dans un pays ou dans une situation économique va pouvoir être utilisé comme force, comme opportunité ou comme prétexte pour s'enfoncer davantage dans une situation qui serait plutôt une vision de soi et de l'avenir qui est négative. Si vous regardez en temps de guerre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver à manger et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs moyens. Et à côté de ça, il y a toujours une ou deux personnes, petits génies de l'histoire, qui vont aller trouver une opportunité à exploiter dans ce contexte et qui vont démarrer un petit business et puis faire grandir. Et il y a plusieurs histoires familiales comme ça qui ont débuté pendant des guerres. Et donc, ce contexte économique, socio-démographique, le fait que les femmes aient commencé à travailler, par exemple, le baby boom, tout ça, ce sont des éléments qui vont influencer la personne dans son choix de carrière et dans la facilité ou pas d'arriver à son objectif. Donc il y a tout ce contexte-là qui est relativement macro, qui est relativement large. Il y a le contexte familial, c'est un autre...
Alors juste avant le contexte familial, dans le contexte économique et socio-démographique, il y a le vieillissement de la population aussi.
Voilà. Ah, donc,
qui rentre en ligne de compte.
Toutes ces belles histoires avec les pensions à sujet d'actualité, tout ça modifie évidemment le choix, la perception qu'on a de soi-même et de...
Si je comprends bien, ça veut dire que si par exemple je considère que ma pension n'est pas forcément hyper conséquente, je me sens peut-être dans l'obligation de continuer de travailler ou d'avoir un petit job à côté, c'est ça qu'on
par
est en train
exemple,
de dire.
Par exemple, ou se sentir plus coincé. Hein, si la personne se dit la situation économique n'est pas favorable, je vais être obligé de travailler jusqu'à tel âge, ou j'ai la chance de pouvoir travailler jusqu'à tel âge, là déjà une même situation va pouvoir être interprétée de façon différente.
Donc ça c'est le premier contexte économique et socio-démographique qui peut expliquer et influencer nos choix d'études et de métiers. Et vous avez commencé à le dire, il y a le contexte familial aussi.
Alors là,
un gros contexte, celui-là.
Très très gros contexte qui est vraiment de taille. Donc ça va aller de la profession des parents, de la façon dont le travail est investi par les parents. Il y a des personnes que j'accompagne qui sont des personnes qui sont brillantes, qui ont des diplômes, qui ont des compétences, qui ont des ressources, mais qui stagnent complètement au niveau professionnel et qui ne démarrent pas, ou alors elles sont dans un travail qui est tout à fait en dessous de leurs compétences, ou simplement elles s'auto-sabotent, elles commencent un travail, ça ne va jamais, c'est un autre, etc.
Et ces personnes qui viennent vous voir en consultation ont déjà conscience que c'est lié à leur passé familial, ou alors elles...
Pas nécessairement.
Non.
Alors ce qui ressort par exemple dans ce type de scénario, on voit des personnes qui sont issues de familles qui ont, entre guillemets, réussi. Des familles de carriéristes ou des personnes qui ont créé leur business, qui a très très bien réussi. Et ça veut dire que le travail était le pilier de la famille, la seule chose qui était importante. Et il y a la valeur travail, valeur qui peut aussi être une obsession et qui va vraiment mener la danse pour toute la vie, où c'est le pilier, le reste, s'il y en a, il passe après. Alors, les enfants qui grandissent là-dedans, soit ils adoptent la culture travail et ce sont des bosseurs, ce sont des créateurs d'entreprises et ils sont hyper investis dans le travail, soit alors on a la réaction qui est complètement inverse, qui est une opposition.
Qui prennent le contre-pied du
modèle familial. Et ça, c'est pas toujours conscient. C'est en travail de coaching qu'on va débusquer ça. Ou ce qu'on met en fait en évidence, c'est que la personne est absolument pas du tout en accord avec ce que ses parents, avec ce que leurs parents ont fait de leur vie. Ou c'est un excès contraire. Et la personne tombe, pardon, dans l'excès contraire, dans quelque chose où je ne fais plus rien, parce que si c'est pour vivre ce que mes parents ont vécu, ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc, elles vont se saboter parce qu'on ne peut pas crier haut et fort aux parents.
Qu'on n'adhère pas à leurs valeurs.
Qu'on n'adhère pas, parce qu'en plus, on en est dépendant financièrement. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites ouvertement. Donc, ça va passer par de l'autosabotage. Et cet autosabotage va aussi permettre de concilier les valeurs familiales. Parce que si je commence un travail, ça ne va pas. Je recommence un autre travail, ça ne va pas. C'est perçu par la famille comme quelqu'un qui en veut quand même. Et donc, qui, en quelque sorte, adhère à la valeur travail et qui ne va pas être exclu de la famille parce que la personne n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Donc, y a une déperdition d'énergie et il y a un auto-sabotage qui peut provenir d'un scénario de ce type-là.
Alors, dans ce contexte familial, il y a donc les valeurs familiales dont on parle, il y a aussi les aspirations que l'on peut avoir.
Alors ça, c'est quelque chose que je rencontre aussi fréquemment, plus au niveau des jeunes sportifs, où la maman qui n'a pas pu être championne de tennis ou de gymnastique, le papa qui n'a pas eu l'opportunité de devenir champion sport moteur, et on fait tout pour que l'enfant, et ça commence très très tôt, développe un talent, développe des ressources, des compétences pour devenir un sportif professionnel. Alors, une telle pression peut être mise sur un enfant qui a 6-7 ans et toute la vie de famille va tourner autour de l'organisation pour que cet enfant puisse réaliser le rêve de ses parents.
Oui, donc ça, c'est les aspirations, c'est même les projections des parents sur les enfants.
Oui, exactement. Et ça, c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent que ce qu'on pourrait imaginer. Des rêves de parents qui soit sont partagés et ils sont connus, soit alors ce sont des rêves qui n'ont jamais été exprimés. Et là, on est dans des processus qui frôlent quand même la manipulation où le parent va faire tout pour que l'enfant aille envie et se motive pour réaliser son propre rêve.
Est-ce que c'est un contexte familial, vous qui nous écoutez, qui vous parle ? Est-ce que c'est la manière dont ça s'est passé pour vous ? Est-ce que c'est la manière dont tout cela a conditionné votre vie professionnelle aujourd'hui ? 0,70, 23, 33, 23, on va continuer d'en parler juste après ça.
La vie du bon côté.
Notre histoire de vie influence notre vie professionnelle. On en parle cet après-midi avec Marie-Pierre Prudhomme, qui est coach professionnel. On en était rendu au contexte familial, hein, qui influence lui aussi nos choix d'études et de métier. Ce qui influe, on le rappelle, ce sont aussi toutes ces croyances familiales, hein, Marie-Pierre.
Voilà, on va se dire que on croit ce qu'on voit.
Pas moi qui vais vous dire le contraire. Saint Thomas, c'est un peu ça. Hein, en même temps. Il ne croit que ce qu'il voit.
Et inversement, mais on va voir aussi ce qu'on croit. Hein. Donc, si on croit fermement quelque chose, on va avoir ces filtres qui vont se mettre en place et on va voir ce qui correspond à nos croyances. Alors, si nos parents ont certaines croyances, eh bien, de cette façon-là, ça va influencer leur façon de regarder leurs enfants et donc de leur renvoyer une image. Et ça nous mène à l'idée de l'estime, de l'image, ce que les parents envoient comme image à l'enfant, ce qu'ils envoient comme, je sais que je peux te faire confiance, ou vas-y, fonce, ou attention, c'est dangereux. Tous ces messages-là vont construire une image chez l'enfant. Et donc ça va contribuer effectivement à un choix. Oh non, je vais quand même pas faire ça, ça c'est un métier, oui c'est bien, mais moi je ne suis pas capable. Mmh. Tous les messages qui ont été envoyés et l'image que les parents ont de leur enfant, ça va contribuer à une construction chez l'enfant. Encore une fois, soit ils vont prendre ce que le parent a donné, soit il va y avoir une réaction tout à fait opposée. S'il dit « tu n'es capable de rien, mais attends, tu vas voir que je suis vraiment capable de quelque chose » et l'enfant va pouvoir aller chercher des ressources. Encore une fois, on en revient à ce constat, à partir d'une même situation, on va pouvoir utiliser de façon très très différente et métaboliser ça pour en faire quelque chose qui soit positif ou renforcer des croyances négatives ou renforcer des schémas qui ne sont pas constructifs.
Ouais, donc ce qui est important, c'est la façon dont les parents perçoivent l'enfant. Parler d'estime, mais ça peut être aussi de non-estime.
Voilà, exactement. Si le message est constamment de non-respect, ça va être difficile de pouvoir s'estimer soi, de construire une image de soi. Tout ça a un impact énorme. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à tout âge, on peut reconstruire ça et on peut retrouver vraiment une bonne image de soi et aller chercher des expériences qui vont faire qu'on va s'épanouir et utiliser tout ce bagage qu'on reçoit pendant l'enfance, puisque on reçoit quand même des choses qu'on n'a pas nécessairement commandées et qui ne sont pas toujours nécessairement agréables. Le tout, c'est de voir que fait-on de ça, comment l'utilise-t-on.
Et vous qui nous écoutez, est-ce que votre contexte familial a, influencé, votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez été soutenu ou au contraire, est-ce que l'image que portaient vos parents, vos proches, votre entourage à l'époque a conditionné une vie professionnelle que vous estimez moins remplie, moins épanouissante que ce à quoi vous auriez pu vous attendre? 070 23 33 23. Donc le contexte familial qui influence nos choix d'études et de métiers, il y a les expériences personnelles également qui influencent ces choix d'études et de métiers. Dans ce domaine-là, faut pas sous-estimer la santé.
Oui, tout à fait. Si on a une bonne santé ou si on a une santé fragile, ça va avoir un impact direct au niveau à la fois de la confiance en soi. Si je ne peux pas faire confiance à ma santé, ça va être déjà plus compliqué de me faire confiance. De me faire confiance à moi d'une façon plus générale. Et puis, si la santé n'est pas là, comment aller trouver la force aussi d'utiliser ces ressources? Maintenant, on voit aussi quand même de nombreuses histoires où c'est justement un problème de santé qui a été un starter pour une personne et qui a fait qu'elle l'a absolument voulu se sortir de ça. Ça a fait déployer des ressources extraordinaires pour solutionner ce problème de santé. Et puis, on en a fait, une profession, on en a fait un métier.
Ça peut être quitte ou double. Ça
exactement.
Peut être un starter, un booster, comme quelque chose d'handicapant.
Voilà. Moi, c'est dans mon parcours professionnel aussi, il y a cet élément-là aussi, où c'est quand même un gros problème familial et un gros problème de santé. Qui a fait que j'ai trouvé les ressources pour m'en sortir et j'en ai fait mon métier. Il y avait plusieurs options possibles, il y a eu plein d'options possibles, mais celle que j'ai choisie, c'est d'utiliser ça pour en faire un sujet
un
d'étude,
marche-pied pour,
et voilà un propulseur, un tremplin. Et une autre option, c'est de dégringoler et de se lamenter. Maintenant, il n'y a aucun jugement parce qu'il y a un tas de paramètres qui interviennent dans le fait de pouvoir rebondir ou pas. Il y a vraiment un tas de paramètres qui interviennent. Il y a la famille, mais il y a aussi tout ce qui gravite ou pas autour de la famille. Il y a énormément...
Et qui ont leur importance et leur influence.
Voilà, qui ont leur influence. Il y a vraiment un tas de facteurs qui interviennent.
Alors dans ce domaine personnel, on retiendra aussi les événements que l'on a traversés au cours des années et qui peuvent être soit positifs, soit négatifs.
Exactement, quelqu'un qui va vivre des traumatismes va avoir des réactions qui vont être différentes de quelqu'un qui n'a pas vécu de traumatisme. Et encore une fois, est-ce que ça...
C'est pas tant l'événement, je crois, hein. C'est la manière dont on l'aura vécu, c'est
ça ? Exactement, voilà. Qu'est-ce que je fais de ça ? Je donnais un exemple d'une personne dont un des parents est mort électrocuté. C'est quelque chose qui est terrorisant, évidemment. Qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que je deviens conseiller en prévention spécialisée dans les risques électriques ou est-ce que je deviens un assassin pour rendre justice ?
C'est un peu la résilience, finalement.
C'est carrément la résilience.
On parlait un petit peu tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Un mot là-dessus, peut-être ?
Donc la résilience, cette capacité à utiliser un événement de vie qui peut être généralement considéré comme négatif ou comme une épreuve. Et donc cette résilience, ça va être la capacité justement à utiliser ça pour rebondir et pour aller vers quelque chose qui est positif. C'est plus que faire avec l'événement, c'est vraiment l'utiliser pour arriver à autre chose, à quelque chose de très très positif.
La résilience qui peut donc conditionner pour partie notre vie professionnelle aussi.
Exactement, tout à fait, oui.
Un mot encore sur nos ressources et nos capacités, il y a les compétences réelles et puis il y a celles que l'on peut imaginer, c'est ça aussi ?
Voilà, exactement. Ouais, donc, et ça va dans un sens comme dans l'autre. Il y a des personnes que je rencontre en accompagnement professionnel qui sont bardées de diplômes et qui sont dans un doute perpétuel. Et donc, quand je leur dis d'une façon ironique, ce doctorat, en fait, on s'est trompé, on vous l'a donné un petit peu par erreur, la personne... Elle rigole et puis elle dit oui, non, et puis elle se rend compte de l'aberration. Il peut vraiment y avoir un doute qui est persistant alors que la personne cumule les diplômes, cumule les preuves de reconnaissance, elle décroche un job et mais pourquoi m'avez-vous choisi moi ? Vous êtes sûr ? Vous avez fait une erreur, hein ? Et donc ça fait partie de l'image de soi et de cette... qu'est-ce que je me dis de moi ? Il y a des capacités qui sont là, qui sont objectivables, et puis comment est-ce que moi je les considère ? Il y a des gens qui sont justement tout à fait à l'inverse, où les capacités ne sont pas là, mais ils pensent qu'ils sont super capables, et là ça pose problème aussi, à l'inverse.
070 23 33 23 pour intervenir. On va voir dans un instant comment on peut être sûr que l'on a choisi le bon boulot. Ce sera juste après la pause. Deux heures moins dix dans la vie du bon côté. Comment notre histoire de vie influence-t-elle notre vie professionnelle ? On en parle avec Marie-Pierre Prudhomme qui est coach professionnel. Je le disais, on va s'attarder maintenant sur la manière d'être sûr que l'on a choisi le bon boulot et que nous ne sommes pas trop laissés influencer par notre vie personnelle. Et Marie-Pierre, il y a tout d'abord un regard à poser sur l'équilibre entre les différentes sphères de vie, je crois.
Voilà, je pense que ça c'est un des premiers critères. C'est une notion d'équilibre et de se sentir avec une répartition qui soit tout à fait juste entre une vie de famille, une vie sociale, une vie professionnelle, qui ait de la place pour les loisirs, pour du sport, pour une activité physique, pour de la détente. À partir du moment où il n'y a que le travail dans la vie, un seul pilier, c'est toujours dangereux. Hein, plus il y a de
pieds. Plus il y a de piliers, plus c'est équilibré ou équilibrant.
Plus c'est équilibré et équilibrant. Investir un seul pilier, c'est quand même une des voies magiques pour développer toutes sortes de problèmes comme le burn-out par exemple, où là il y a un surinvestissement dans le travail et il n'y a que ça dans la vie de la personne. Donc une vie professionnelle qui est épanouissante, qui est juste, c'est déjà un des critères, cette idée d'avoir un équilibre entre les différentes sphères de la vie.
Entre famille, soi-même, voilà. Les loisirs, la vie sociale.
Exact, oui, ouais, voilà. Alors, un autre élément, c'est d'être au quotidien dans une activité qui nous fait vibrer, où on est en symbiose, on est dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui correspond à nos valeurs. On se sent utile aussi. On a l'impression d'amener quelque chose. Donc, mais l'idée de vibration, elle est quand même assez importante aussi. Le fait aussi d'apprendre au quotidien dans son travail, ça aussi, c'est un élément qui est vraiment important. Le fait de se sentir valorisé, justement, valorisé tant au niveau de l'argent, est-ce que ce que je reçois comme... reconnaissance financière, est-ce que c'est juste ? Alors, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Étrangement, on peut se sentir aussi trop payé. On sait que dans certains métiers, comme le foot à haut niveau, par exemple, des études ont été faites sur la façon dont certains joueurs vivaient leur salaire. Eh bien, on peut toujours leur donner un coup de pouce, hein, s'ils ont toujours un problème avec ça.
Mais, pas tous, en tout cas.
Ça peut poser un problème au niveau de l'image de soi et au niveau de l'épanouissement personnel, le fait de recevoir de très fortes sommes d'argent et de percevoir un déséquilibre entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit comme argent. Donc ça joue dans un sens comme dans l'autre. Quelqu'un qui va être surinvesti et qui se considère sous-payé comme quelqu'un qui considère que son salaire est beaucoup, beaucoup trop élevé. Donc ça, c'est encore un facteur. Il y en a d'autres, vous en voulez encore ?
Non, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va accueillir Lucie qui est avec nous et qui nous arrive au 070 23 33 23. Bonjour Lucie.
Bonjour Thomas.
Soyez
bonjour Marie-Pierre.
La bienvenue, notre conversation vous parle depuis le début de cette émission.
Tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, professionnellement, donc j'exerce le métier d'infirmière. Et en fait, je ne suis pas devenue infirmière par hasard. Tout ça, donc, est en relation avec mon enfance qui a été relativement difficile. J'avais un père qui était maniaco-dépressif. Donc, c'était un sujet tabou dans la société. Moi, personnellement, j'ai été sensibilisée donc, à son problème de santé dès ma plus tendre enfance. Et je pense que j'ai développé donc, une intelligence émotionnelle, une émotivité qui me sert tous les jours dans mon travail. Mmh. Et en fait, d'une certaine manière, en exerçant mon métier, j'ai voulu peut-être essayer de sauver mon père, ce que je n'ai jamais réussi à faire, bien entendu, parce que la famille proche, souvent, ne s'est pas aidée. Mais voilà, tous les jours, je pense que je suis tout à fait en accord avec ce que je fais parce que je suis très sensible, j'ai beaucoup d'empathie. Et voilà, donc et tous les jours, je reçois des merci, vous êtes gentil, ah, vous me comprenez, voilà. Mais il y a tout un travail aussi qui a été fait derrière tout ça parce qu'il faut savoir garder ses limites. Il faut savoir, je veux dire, il ne faut pas que en fait, les soucis des personnes nous envahissent. Il faut savoir mettre des barrières.
Ouais,
tout
ouais.
En ressentant ce que la personne en face de nous ressent. Quoi.
Donc si je vous comprends bien, l'enfance difficile que vous nous décrivez avec un papa maniaco-dépressif, au final, elle a eu des conséquences positives sur votre vie et peut-être votre vie professionnelle, Lucie ?
Tout à fait.
C'est assez surprenant quand même.
Pardon ?
Je disais, c'est assez surprenant.
Non, je pense pas du tout.
Non,
je pense pas du tout. Je pense que les échecs qu'on peut avoir dans notre vie ou nos difficultés, si on parvient à les surmonter et en faire quelque chose, eh bien, c'est positif. Je pense qu'il faut se poser, bon, j'aurais pu aussi devenir maniaco-dépressive, mm-hmm. j'aurais pu aussi... Non, je pense que tout ça m'a servi et en fait, je pense que j'ai développé une sensibilité, une intelligence émotionnelle que je n'aurais pas eue si je n'avais pas eu cette enfance, quoi.
Marie-Pierre.
Voilà, donc félicitations Lucie, hein, c'est très chouette, c'est vraiment un très très bel exemple. Effectivement, et cette idée de pas pouvoir sauver ses parents peut donner des ailes et guider vers des métiers où on va accompagner, on va aider entre guillemets à différents niveaux et soulager l'autre. Et ici, on voit que Lucie a super bien utilisé ces événements de vie et qui a tous ces patients qui bénéficient de son expérience. Et là, ce qui est à mettre en place, effectivement, et qu'elle l'a fait, c'est bien d'attirer l'attention là-dessus, c'est tout ce travail pour ne pas qu'il y ait un surinvestissement émotionnel. J'ai assez bien d'accompagnement avec le personnel soignant. Et les
qui ne met pas trop de limites entre le professionnel et le personnel.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et alors, le danger aussi, c'est des risques de projection, où le soignant projette un peu un de ses parents. À un moment donné ou à un autre, un patient est identifié au père ou à la mère, de façon consciente ou inconsciente. Et là, on peut rentrer vraiment dans un surinvestissement au niveau du travail et développer des relations qui sont autres que professionnelles et l'humain nécessaire. Et là, ça peut poser certains problèmes et encore une fois, belle voie pour le burn-out. Quoi. Mais ici, Lucie a bien
pas du tout emprunté ce chemin-là.
Elle a été intelligente pour elle jusqu'au bout et elle continue.
Merci beaucoup Lucie pour votre témoignage cet après-midi. Suite de la conversation dans La Vie du Bon Côté.
13h-14h30, La Vie du Bon Côté sur Vivacité.
Avec Marie-Pierre Prodhomme, qui est coach professionnel et qui, avec vous, développe notre sujet cet après-midi autour des histoires de vie qui influencent notre parcours professionnel. On parlait tout à l'heure de la manière d'être sûr d'avoir choisi le bon boulot. Pour ça, il y a un regard à poser sur l'équilibre entre les différentes sphères de vie, équilibre entre la famille, équilibre avec soi, avec les loisirs et la vie sociale. On a parlé également du travail qui nous épanouissait ou pas. Le travail, autre interrogation à formuler, un travail qui respecte notre santé, c'est un critère important ça Marie-Pierre.
Oui, évidemment, il y a malheureusement un tas d'activités professionnelles qui sont nuisibles pour la santé, que ce soit au niveau de la manutention ou du fait de manipuler des substances toxiques. Donc il y a à mettre en place ce qui est prévu de mettre en place. On vit quand même une très belle époque au niveau des protections du travail, des protections collectives, des protections individuelles. Et je pense qu'une des priorités, c'est vraiment de respecter ce qui est prévu par le cadre légal et par l'employeur. Alors, au-delà de ça, il y a aussi toutes sortes de souffrances qui peuvent être générées, qui sont des souffrances psychiques, que ce soit au niveau de la relation entre travailleurs ou avec une clientèle ou une patientèle. Et comme l'exprimait Lucie, une possibilité aussi de détresse émotionnelle dans certains métiers d'accompagnement ou de métiers médicaux, paramédicaux, etc.
Oui, parce que la santé, ça recouvre aussi l'intégrité physique et mentale. Hein.
Voilà, physique et mentale. Et heureusement pour nous, c'est comme ça que quand vous regardez les notions légales de bien-être au travail, mais là, on parle de risques psychosociaux. Donc, c'est vraiment bien officiellement reconnu. Et un médecin du travail peut reconnaître un risque psychosocial, donc un risque de dommage par le stress, par la dépression, par le burn-out. Et donc, un travail où on se sent bien, c'est un travail où la santé reste un maximum dans son intégrité. Je pense que c'est quand même un des piliers. Et si on détruit sa santé dans son travail, il y a vraiment des questions à se poser.
Oui. Donc ça, c'est pour le côté santé. D'autres questions qui sont à se poser pour se demander si l'on a choisi le bon boulot ou pas, c'est est-ce que j'apprends toujours dans mon travail ?
Oui, ça semble quelque chose de vraiment important. Le fait de s'ennuyer au travail a des répercussions qui peuvent être dangereuses à la fois pour la personne, pour son employeur, pour des usagers. Pour
parce qu'on parle de burn-out, mais on parle maintenant de bore-out.
Exact. Hein, donc, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire ou très, très peu à faire. Et donc, on imagine bien ce qui s'ensuit. C'est une dévalorisation et un problème très sérieux d'estime de soi. Et là, je refais un lien avec cette histoire de salaire et de sentir qu'on est valorisé de façon juste. Si du jour au lendemain, la RTB vous dit « Thomas, ben voilà, votre nouveau bureau, c'est ici au fond du couloir et vous n'allez pas être trop dérangé. » Il n'y a rien, mais vous continuez à percevoir votre salaire, même si au début, bah, peut-être le smartphone va chauffer, mais il y a un moment donné où il y a quand même un fameux questionnement, une dévalorisation, et donc là, le bore-out guette, effectivement, où c'est l'ennui et c'est la dépression, ça va jusqu'au suicide.
Oui, c'est aussi dramatique que le burn-out. Dans l'autre sens.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des situations dans certaines entreprises qui sont créées comme ça, pour que la personne parte d'elle-même. Et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher.
Alors, autre type d'interrogation que l'on peut formuler et que l'on peut se poser pour toujours savoir si l'on a choisi le bon boulot, c'est « Est-ce que je suis satisfait de moi ?»
Oui, avoir cette satisfaction, ce que je fais est juste, ce que je fais amène quelque chose aux autres, ce que je fais c'est un plus, ça fait partie de mes valeurs. La satisfaction de ce qu'on fait, la satisfaction de ce qu'on est aussi sur son lieu de travail, et une idée de cohérence aussi, puis les relations aux autres aussi, ça c'est quelque chose qui est hyper hyper important.
La satisfaction d'être valorisé aussi.
D'être valorisé, ouais. Et la relation, hein, les relations entre collègues, ça aussi c'est un indicateur.
Les relations au boulot sont-elles agréables? C'est l'une des questions que l'on peut se poser. Ça, c'est le type d'interrogation sur savoir si l'on a choisi le bon boulot. On va terminer cette émission maintenant en se demandant ce qui influence nos relations dans le travail. Et d'abord, vous dites, Marie-Pierre, qu'il y a la relation aux parents, encore une fois, qui est importante.
Mais oui, voilà. Donc là, on revient un petit peu sur ce qu'on a évoqué en tout début d'émission. Hein, la posture qu'on a adoptée en étant enfant ou professionnellement, on va soit reconduire ça, soit être vraiment dans un mécanisme tout à fait opposé et qui de toute façon va poser problème parce qu'on n'est pas dans la liberté. Soit on est dans je calque exactement, soit alors on est dans je m'oppose et je fais exactement l'inverse. Pour ne pas être dans une position de soumission, mais je vais être dans quelque chose qui est dictatorial ou qui est vraiment très, très imposant et très cassant par rapport aux autres, parce que moi-même, j'ai été cassée.
On peut retrouver une situation de harcèlement que l'on a vécu dans sa famille et que l'on va retrouver sur le lieu de travail. Il se passe quoi dans ces cas-là? C'est nous qui générons ça sur le lieu de boulot ou alors, en provoquant la situation ou alors on repère le type de profil de personnalité que l'on peut avoir.
Alors, pour moi, c'est à considérer vraiment en termes d'interaction et de jeu, pas un jeu plaisant, hein, mais vraiment dans le sens interaction qui se construit entre les personnes. Et il y a des scénarios qui se rejouent. Alors, il y a des théories qui expliquent que ce qui nous a manqué ou ce qui a été difficile pendant l'enfance, en fait, nous fait rejouer les mêmes scénarios pour que cette fois, ça se passe bien. C'est un peu le schéma de enfant de parents alcooliques qui va aller retrouver une personne qui va avoir une tendance à la dépendance pour rejouer l'histoire d'une autre façon. C'est un peu comme dire, ben voilà, cette fois-ci, je vais réussir. Mais néanmoins, les dés sont pipés, puisqu'on part avec une situation qui, à la base, n'est pas bonne. Et donc, ici, ce qu'on voit dans les relations au travail qui sont malsaines ou qui sont destructrices, c'est quelque chose qui se construit entre deux personnes, qui se construit par les deux personnes. Et si on creuse un petit peu, on retrouve de part et d'autre des schémas au niveau de la systémique familiale qui ressemble très très fort à ce qui se passe sur le lieu de travail. Donc si on a par exemple une personne qui a souffert d'un divorce et qui s'est sentie abandonnée dans ce divorce par son père ou par sa mère ou par les deux,
oui.
Vous voyez un schéma où des années plus tard, dans la vie professionnelle, la personne va s'effondrer et parce qu'il y a une personne qui n'est pas adéquate vis-à-vis d'elle. En fait, elle l'a projetée sur cette personne et pour elle, inconsciemment, cette personne devait la défendre, devait la protéger. Or, la personne n'investit pas cette posture puisque de toute façon, rien n'a été demandé. Et comme le travailleur ou la travailleuse ne reçoit pas ce qu'elle attend inconsciemment, elle peut vraiment descendre très très rapidement dans des états de dépression, dans des stratégies de destruction parce qu'il y a cette projection et qu'il y a l'attente qu'un patron, un directeur, un collègue répare quelque part les dommages de l'enfance et reprenne une posture et une position qu'un père ou une mère n'a pas eue. Et donc ça, ce sont des mécanismes très très fréquents et on les repère quand on vous explique une situation professionnelle où, qui est hyper chargée d'émotionnel et quand vous analysez un petit peu les faits, vous vous dites, comment ça se fait qu'on puisse être aussi touché par une telle situation ? C'est simplement que la situation fait écho à la situation d'enfance et la personne, elle a 5 ans, elle est replongée dans sa situation d'enfance.
Le contexte familial et parental qui influence donc nos relations dans le travail, on peut aussi pointer les expériences professionnelles du passé, Marie-Pierre, qui peuvent influer sur le travail d'aujourd'hui.
Exactement, nos expériences du passé, elles nous façonnent. Hein. Si on a commencé dans une organisation ou une société où on a dû tout prendre en main, on vous a fait super confiance parce que il n'y avait pas le choix, il y avait que vous et on vous a offert cette responsabilité et que ça se passe bien, et bien ça va être un fameux bagage tant en termes d'apprentissage concret qu'en termes de référence. Je peux me faire confiance et donc je vais postuler pour un job où il y aura de la responsabilité et où je vais montrer que j'ai effectivement vraiment confiance en moi.
Justement, la confiance en soi et l'image de soi qui rentre aussi en ligne de compte.
Exactement. Et ça, c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Ce sont les expériences qui la construisent. Alors, si on veut rebooster la confiance en soi au niveau professionnel, c'est agir dans d'autres sphères en se donnant de petits objectifs qu'on est sûr d'atteindre et travailler l'auto-félicitation, l'auto-satisfaction grâce à ces petits objectifs qu'on atteint, cultiver cette sensation de réussite et reprendre confiance.
Les croyances et les stéréotypes qui ne sont pas non plus à négliger, on y revient aux croyances. Alors croyances pour ce domaine qui influence nos relations dans le travail. Un exemple, les femmes managent de telle manière, je ne dirais pas laquelle, ou les ouvriers sont comme si. Donc les croyances et les stéréotypes qui influence aussi nos relations au travail.
Effectivement, hein, si vous entrez dans un milieu professionnel avec vos croyances qui sont les vôtres, et on en a tous avec des stéréotypes, des représentations, tiens, un homme, il dirige comme ça, une femme, elle dirige comme ça, si c'est un ouvrier, il faut lui adresser la parole comme ça, parce qu'il va réagir comme ça. Avec ces préjugés et ces a priori, on va nous-mêmes orienter complètement la relation. Donc on va parler de l'effet Pygmalion, hein, où il y avait ces expériences, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec des instituteurs à qui on avait donné un groupe d'étudiants. On dit, ces élèves-là, c'est le groupe des cancres, et ces élèves-là, c'est le groupe des super
bon.
Des super bons. C'est un partage qui avait été fait de façon tout à fait aléatoire, donc il n'y avait absolument pas de critères qui objectivaient qu'un groupe était intelligent et que l'autre groupe n'était pas intelligent. Mais donc l'expérience montre que le prof, parce qu'on lui a donné cette information par rapport à son groupe d'élèves, va tout à fait mener autrement sa façon de donner cours. Et ce qu'on voit, c'est que après quelque temps, quand on teste les étudiants, ceux avec qui on a travaillé en se disant là, moi j'ai les bons et pas de chance pour moi, j'ai les cancres, les résultats viennent prouver ça. Donc ça nous montre que le fait de regarder quelqu'un avec certaines croyances, avec certains a priori, priori et avec nos stéréotypes va influencer toute la relation. Si on vous présente un supérieur, on vous dit méfie-toi, c'est quelqu'un qui est un harceleur, la posture qui va être prise va amorcer ou non ce comportement-là.
Et par réaction, on peut aussi également s'interroger sur la place que l'on occupe dans les autres sphères de la vie, les loisirs, le sport, la famille. Est-ce qu'on a une position similaire ou opposée par réaction ?
Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des compensations qui se mettent en place ou simplement ben, on reproduit toujours la même chose. Et retrouver un équilibre quand le professionnel est difficile, de retrouver un équilibre et de retrouver une façon d'exister au sein d'une autre sphère peut vraiment booster la confiance en soi et permettre de redémarrer professionnellement. Ben, voilà, peut-être là, peut-être ailleurs, mais de retrouver un équilibre.
On arrive à la fin de cette émission autour de notre histoire de vie qui influence notre vie professionnelle. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission, Marie-Pierre, qu'est-ce que l'on s'est dit depuis 13h maintenant, depuis le début de cette émission ?
On s'est dit beaucoup de choses,
beaucoup
Thomas.
Beaucoup de choses, oui. Résumé en quelques mots, quelques lignes.
Alors, ce qu'on pourrait résumer, c'est que effectivement, notre histoire personnelle, ce qu'on vit dans l'enfance, les relations que nous avons à nos parents, à notre entourage proche, a une incidence plus que directe sur nos choix d'études, sur nos choix professionnels. On va soit utiliser ce qu'on a vécu de façon positive, soit s'en sentir diminué. Ce qui intervient également aussi, c'est la façon dont on est perçu par nos propres parents, qui va contribuer encore une fois à construire l'image qu'on a de soi. Se poser question sur la vie professionnelle qu'on a, est-ce qu'elle est satisfaisante ? Se poser la question de l'équilibre, est-ce que je suis en bonne santé dans ce métier ? Est-ce que ça contribue à garder la santé ? Et est-ce que j'ai d'autres choses dans ma vie que uniquement le professionnel ? Et quoi d'autre, Thomas ? Qu'est-ce qu'on a encore dit ?
Écoutez, vous écouterez le podcast de l'émission qui sera disponible en fin d'après-midi. Je rappelle le site, c'est qui est le vôtre, Marie-Pierre, www.coachingprudhomme.be.
Oui, merci.
Merci à vous d'être passé par les studios de Vivacité, Marie-Pierre. Et rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle émission.
Merci.
Ce sera avec Sylvie cette fois. Merci à vous et belle journée à vous, Marie-Pierre.